Je voulais lui parler aujourd'hui parce que disons qu'on a quelques sujets à l'ordre du jour. Je parle bien entendu du conseiller municipal dans le secteur Gatineau, Daniel Champagne. D'abord, j'ai appris au cours des dernières heures que, vous souvenez, le dossier, les refoulements sur la rue Nobert, là, il y avait eu quasiment une trentaine de citoyens, de propriétaires qui avaient eu un petit peu de caca à l'intérieur de leur résidence, mais c'était pas la rue au complet. Il y avait eu un litige, des discussions avec la Ville et selon mes informations, bien, la Ville n'embarque pas. Il y a aussi le dossier des partis politiques à Gatineau qui continuent à faire jaser. Et aussi, je vais lui parler un peu du boulevard de la Cité. Est-ce que ça débloque ou pas? On le retrouve au bout du fil. Daniel Champagne, bonjour.
Bonjour, M. Lucas.
Bon, la rue Nobert, il y avait 27 ou 28 propriétaires qui avaient cogné à la porte de la Ville, fait des réclamations. Puis là, ben finalement, la Ville a dit non, c'est directement dans votre quartier. Quelle est votre position par rapport à tout ça?
Oui, bien, c'est une situation regrettable, là, je vais vous dire honnêtement. Lorsqu'on est assis avec notre petite famille en plein mois d'août, puis on est confronté à un refoulement d'égouts sanitaires, il n'y a rien de plaisant là-dedans. Là. Donc, c'est ce qui s'est passé, effectivement. C'est 29 résidences qui ont subi un refoulement d'égouts sur la rue Nobert, justement. Puis, l'analyse, les services juridiques ont procédé avec l'analyse. L'administration a fait l'analyse aussi. On a fait les visites des différentes résidences. Faut préciser là, que c'est 29 résidences sur, j'ai pas le chiffre exact, là, mais sur une centaine essentiellement. Et là, il y a une lettre qui, vous avez raison de le dire, il y a une lettre qui a été envoyée aux citoyens, là, les avisant que la ville n'est pas responsable justement des dommages essentiellement parce que la loi sur les compétences municipales, ce qu'elle prévoit, c'est que la municipalité ne peut pas être responsable des dommages qui sont causés à un contenu comme tel là, de ce qu'il y a dans l'immeuble quand il y a absence de clapet anti-retour ou lorsqu'il y a un dysfonctionnement du clapet. Donc, dans ce contexte-là, considérant que sur la centaine ou plus de résidences sur la rue, il y en a 29 résidences qui n'ont pas été protégées, mm-hmm. L'analyse démontre que, dans le fait, les clapets étaient dysfonctionnels.
Et c'est pas des maisons, comment je peux bien dire... une à côté de l'autre. Là, c'est pas le 2, le 4, le 6, le 8, le 10, le 12 qui ont été endommagés. Là. Ça peut être le 2, le 12, le 22, le 27, etc. C'est ce qui a fait en sorte que la ville a penché de ce côté-là.
Oui, c'est exact. C'est vraiment aléatoire. Là. C'est pas nécessairement une série de maisons. Donc, ça vient essentiellement confirmer ça, d'une part. Mais ceci dit, c'est important de préciser que la majorité des propriétaires, en fait, l'ensemble des propriétaires ont une couverture d'assurance pour ce genre d'événement-là et donc ils vont être dédommagés par l'assurance. Mais ouais. Ceci dit, moi, j'ai un malaise énorme là-dedans, là, c'est que, ben, d'une part, il faut reconnaître que la ville avait oublié une grille anti-chute, là, c'est ce qui a causé le blocage, d'une part. Ouais. Mais je reconnais quand même que c'est une responsabilité citoyenne d'entretenir le clapet, là. Bon, d'accord, mais moi, je pense que la ville, on doit clairement faire une meilleure job, là, pour informer les gens de l'assurance qu'il y ait un clapet qui est étanche dans leur résidence, là, qui est fonctionnel essentiellement.
Pourtant, on ne parle pas de vieilles résidences. Parfois, des résidences qui ont été construites, il n'y a même pas de drain de français. À l'époque, la loi ou le règlement municipal, je ne sais pas si c'est une loi provinciale ou un règlement municipal, le clapet, mais peu importe, on n'en obligeait pas. On est dans des constructions d'à peu près une vingtaine d'années.
Oui. Oui, c'est un peu surprenant, je vous avoue. Moi-même, je ne m'attendais pas nécessairement à ça. Mais ceci dit, moi, considérant ça justement, l'importance d'avoir un clapet fonctionnel, même pour des nouvelles résidences, moi, ce que je vais faire à la lumière de tout ça, je vais proposer au service d'élaborer une campagne d'information là, quant à l'importance, non seulement d'installer, mais d'entretenir un clapet anti-retour pour éviter justement que ce genre de situation-là se reproduise. Pour moi, c'est important que les gens soient bien informés. Là. J'avais un groupe avec moi récemment, puis je disais, levez la main ceux qui savent si leur clapet anti-retour est fonctionnel ou pas. Là, il n'y a pas grand monde. Donc, on doit faire une meilleure publicité de ça, puis moi, je m'engage à faire ça.
Puis, poser la question, savez-vous, il est où? D'après moi, il y a encore pas mal moins de mains qui vont se lever.
Absolument.
Bon, autre dossier, les partis politiques à Gatineau. Moi, M. Champagne, j'étais le soir de l'élection en novembre 2017, j'étais à l'Hôtel de Ville. Je me rappelle d'avoir croisé votre collègue et bon ami Gilles Carpentier, était là. Bon, ben c'est parfait, les deux, on est rentrés. On a un plan. Là, on est à, ça fait 2 ans et quasiment 2 mois de tout ça. N'avez-vous un plan pour la prochaine élection? La mairie, ça vous intéresse-tu? Il y avait des rumeurs à un moment donné. Peut-être qu'il est trop tôt. C'est quoi ce plan-là? C'est quoi cette phrase-là de Gilles Carpentier? Est-ce que c'est de la création d'un parti politique?
En fait, premièrement, au niveau des partis politiques comme tels, moi, je suis pas contre les partis politiques. Pour moi, c'est un moteur de réflexion extraordinaire, les partis politiques, que ce soit au provincial, municipal ou fédéral. Le problème des partis politiques au niveau municipal, c'est la structure, le système dans lequel on travaille. On se retrouve, par exemple, avec des villes comme Longueuil, là, qui dont le contrôle au début du mandat 2017 était totalement sous la responsabilité de l'opposition qui était majoritaire au conseil. Donc, ça démontre une forme de paralysie du conseil municipal ou de la mairie la mairie est élue au suffrage universel sur l'ensemble du territoire. Donc, moi, je pense qu'il y a une réflexion à faire sur la structure, sur le modèle des partis politiques au municipal, parce que, je le répète, là, les partis politiques, c'est en campagne électorale, c'est une façon intéressante de, justement, porter des idées, échanger sur des idées, échanger sur un programme, etc. Sur la question de « on a un plan », ben Gilles Carpentier et moi, notre collègue aussi, nous, ce qu'on a fait au début du mandat actuel, c'est qu'on voulait s'assurer que le système fonctionne, c'est-à-dire que même si le parti politique du maire était minoritaire, qu'on puisse faire valoir nos points. Et dès le début, pensez moi, on a insisté auprès du maire pour qu'on puisse revoir le programme du conseil, qu'on puisse le réécrire, ou en fait l'écrire, le programme du conseil, pour qu'il reflète les engagements de chacun des conseillers municipaux. Vous savez, et ça a fonctionné, on a réussi à mettre un programme en place qui a été adopté de façon unanime en début de mandat, donc c'est ce qui nous porte pour les 4 prochaines années. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous savez, monsieur le maire à Gatineau démontre une grande ouverture à travailler avec les élus indépendants, donc ça fonctionne. Pour certains direct non, mais de façon générale, je pense que ça fonctionne relativement bien. Mais dans certaines villes, le système ou la structure politique actuelle, pour moi, on doit faire une réflexion plus large pour trouver une façon de trouver une structure qui reflète essentiellement ce qui se passe au provincial et au fédéral.
Mm-hmm. Mais d'un autre côté, vous n'allez pas changer la loi ou les us et coutumes en 18-20 mois, là. Vous êtes d'accord avec moi?
Non. Je suis absolument d'accord avec vous, mais moi, c'est une des choses sur lesquelles j'accorde beaucoup d'importance, en fait, là-dessus, parce que j'ai beaucoup de discussions avec mes collègues à l'Union des municipalités du Québec, lorsqu'on parle de partis politiques, entre autres. Mais vous savez que comme je vous dis, moi, je suis pas nécessairement contre, mais il faut revoir quand même le modèle. Lorsqu'on pense, par exemple, la loi des cités et villes accorde 2/3 du budget, des budgets provinciaux, là, pour des dépenses, là, au cabinet du maire et 1/3 à l'opposition. Donc, dans ce contexte-là, si on prend l'exemple de Longueuil, il y avait passé une résolution pour retirer un certain montant du cabinet. Donc, ça démontre une certaine incapacité de travailler pour la mairie. Donc, pour moi, il y a toute une machine qui est brisée là-dedans, mais il y a plusieurs villes qui portent cette réflexion-là. Moi, où je veux l'apporter, cette réflexion-là, c'est dans le cadre de nos rencontres des présidents qu'on a commencé cette année à Gatineau. On a eu la première édition que j'avais organisée ici. Moi, je pense que c'est un endroit extraordinaire pour avoir ce type d'échange-là, puis par la suite faire des revendications tant à l'UMQ qu'au gouvernement provincial.
Allez-vous y aller aussi sur le personnel politique? Il y a Mathieu Bélanger, là, dans le droit, qui a soulevé la question. Puis nous, on le vit, là, tu sais, on vit très bien avec la pression, c'est pas un problème, mais tu sais, le personnel politique qui travaille sur les médias sociaux, qui appelle les médias, dit « Ah, t'as pas parlé de ça, t'aurais pu parler de ça. » Vous n'avez pas ce personnel politique-là. Allez-vous étendre votre réflexion jusqu'à ça aussi? Un personnel politique partisan est quasiment des fois plus impliqué que certains conseillers municipaux en termes de politique active?
Oui, ben moi, je me suis prononcé de façon assez claire là-dessus la semaine dernière. En ce qui me concerne, lorsque le personnel politique peut et devrait intervenir lorsqu'il y a des faits à rétablir. Là, je donnais l'exemple, là, si quelqu'un disait, un conseiller disait, on investit 10 millions, mais dans les faits, c'est 15. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Même, je pense que c'est nécessaire et pertinent. Mais lorsqu'il y a débat politique, là, entre, par exemple, peu importe le conseiller exprime ce qu'il veut appuyer ou pas appuyer pour des raisons politiques, le débat politique, pour moi, il a lieu au conseil municipal, je l'ai dit la semaine dernière, je le répète. Puis d'autre part, lorsqu'il a lieu sur les réseaux sociaux, qui est un endroit pour que les gens puissent s'exprimer, il ne doit pas avoir lieu entre le personnel du cabinet du maire et les conseillers. Si jamais le maire veut s'exprimer, bien, libre à lui de le faire, bien sûr. Puis les réseaux sociaux servent à ça aussi. Mais à ce moment-là, qu'il le fasse soit son nom, en fait, lui-même, ou qu'il le fasse en son nom lorsqu'il réplique au niveau
Mais votre réflexion avec vos collègues des autres grandes villes du Québec, comme on avait vu en septembre dernier, allez-vous aller jusque-là ou vous allez vous contenter de l'aspect électoral de la chose?
Bien, moi, je pense que la première chose qu'on doit faire, là, c'est regarder le modèle tel qu'il existe actuellement et les défis que ça comporte. Là, je reviens à l'exemple de Longueuil. Donc, pour moi, ce qui est fondamental, c'est de dire on doit trouver une façon qu'on se retrouve pas dans une situation difficile. Je vais vous donner l'exemple de 2021. Disons qu'un second parti politique se forme à Gatineau. Imaginons qu'il y a 17 élus conseillers qui sont élus de ce nouveau parti politique-là et que le maire est élu avec un autre parti politique. Comment on va avancer? Comment on va pouvoir progresser? C'est extrêmement problématique. Donc, pour moi, c'est cette base-là sur laquelle il faut se pencher au départ. Puis une fois que tout ça est réfléchi, à ce moment-là, on pensera au financement, on pensera à tous les éléments de budget autour de ça.
Bon. Dernier sujet, on s'en était parlé. Je pense qu'il restait encore des feuilles vertes dans les arbres. Le dossier Guertin, aux dernières nouvelles, ça l'ouvre toujours au mois de novembre. Selon mes informations, on a foutu le responsable du chantier à la porte il y a quelques semaines. Mais bref, ça avance assez vite. Dossier du boulevard de la Cité, lui, est-ce qu'il avance? Parce que je passais là encore hier matin. Très étroit, des fossés assez creuses, pas évident. Ça, c'est jamais évident l'hiver. Avez-vous un plan de match? Qu'est-ce qui se passe avec tout ça?
Bien, tout ce qui a trait le développement du secteur de la Cité, là, récemment, il y a eu des rencontres avec le gouvernement provincial. Puis les promoteurs, un des promoteurs, entre autres, qui avait déposé des demandes de certificats, donc lui permettant justement de faire le développement, a obtenu finalement ces certificats-là. Donc, c'est-à-dire que la porte maintenant est toute grande ouverte pour que les promoteurs puissent faire le développement qu'ils souhaitent faire depuis plusieurs années. Ça a débloqué, donc c'est une très, très bonne nouvelle. Moi, je continue à avoir des discussions. J'ai pas eu de discussion récemment, mais je vais continuer à avoir des discussions avec le promoteur, M. Adam, pour qu'il priorise l'ouverture de la rue de la Cité. Moi, je pense que c'est absolument important que cette rue-là soit ouverte le plus rapidement possible.
Pour un quatre voies comme la montée paiement, là, pas un deux voies, là.
Ben moi, je pense qu'il faut que ça soit une continuité de la rue de la Cité, là, c'est assez clair. Là. Donc, c'est ce qu'il y a actuellement. C'est un quatre voies ou un deux voies. En tout cas, moi, je suis pas l'expert là-dedans. Là, je vais laisser ça aux experts. Mais pour le moment, moi, je pense que le secteur de la Cité doit être priorisé lorsqu'on va faire le développement de ce secteur là par les promoteurs.
Bon, ça va-t-il être prêt en même temps que l'aréna? C'est la question du jour.
Oh, que je le souhaite. Mais je travaille très fort à tenter de trouver des moyens pour qu'on puisse travailler entre la ville et le promoteur pour qu'on puisse trouver des moyens d'ouvrir cette rue-là là, pour l'ouverture de l'aréna. J'espère que ça va être possible ou à tout le moins le plus rapidement possible, mais je continue à penser que c'est tout à fait possible.
Mais vous gagez pas votre paye, on s'entend là-dessus.
Je ne gagerai pas ma paye, mais je peux vous gager ma paye que je travaille fort pour qu'on puisse réussir.
Merci, M. Champagne. À la prochaine.
Je vous en prie. Merci à vous. Au revoir.
Daniel Champagne, conseiller municipal du secteur Gatineau.